C'est le studio Kalangu, il est 17h, tout de suite le journal en français. À la une ce 6 mai 2024, la journée mondiale de la sage-femme a été célébrée hier 5 mai 2024. Au Niger, les sages-femmes de la commune urbaine de Dogondouti ont saisi l'occasion pour rappeler leurs conditions de travail. Fin aujourd'hui à Niamey de la campagne de vaccination lancée jeudi dernier pour lutter contre la méningite. Dans un instant, suivez les explications du médecin sur les symptômes qui surviennent après l'injection. Quels sont les principes fondamentaux humanitaires? Dans la partie magazine de ce soir, nous en saurons plus avec l'ONG NRC à Maradi. Bonsoir à tous, Rafika Taher au micro. La journée de la sage-femme a été célébrée hier 5 mai au Niger, à l'instar de tous les pays du monde. À Dogondouti, région de Dosso, une cérémonie a été organisée dans l'enceinte de l'hôpital du district. Occasion saisie par les sages-femmes pour évoquer quelques insuffisances au niveau de la structure de santé. Madame Jamilou Jamila Mahaman Gombi au micro de Aliobawa.
C'est une journée importante pour nous, car nous avons fait ressortir le nom des sages-femmes. Nous savons que cette journée est célébrée chaque année, mais pour nous, c'est une première. Pour le travail que nous faisons dans la commune de Douti, on ne peut que dire Dieu merci, car nous recevons les femmes enceintes, allaitantes et autres. Le problème auquel nous cherchons solution, c'est l'accouchement à domicile jusqu'à présent, car on ignore si c'était dans un espace propre et sain. Notre premier problème est que nous n'avons pas assez d'espace dans la maternité. C'est vrai que nous ne sommes pas là pour dormir, mais la salle de repos est très étroite, là où nous faisons les soins également, car dès que la sage-femme prend place et la patiente, l'accompagnant n'a pas de place. Nous n'avons pas d'espace également pour la prescription des contraceptions. Nous le faisons dans le bureau du major. La salle d'accouchement contient 4 lits seulement. C'est tout le temps occupé, et la salle de travail aussi.
Comme je le disais dans les titres, une campagne de vaccination contre la méningite a été lancée le jeudi 2 mai dans tout le pays. Objectif, stopper la propagation de cette maladie contagieuse avec pour cible les enfants d'1 à 19 ans. Une de nos équipes était ce matin au CSI Yentala de Niamey pour le constat. Écoutons Dr Sad Sungouli, interrogé par Moutari Mahamadou.
La campagne de vaccination de la méningite, elle a démarré le 2 et elle se termine le 6, c'est-à-dire aujourd'hui même. La cible, c'est de 1 à 19 ans. C'est la cible que nous avons privilégiée pour cette campagne. Les enfants et les adolescents sont beaucoup plus fragiles, ils sont beaucoup plus vulnérables. Et étant donné que le vaccin ne peut pas suffire pour toute l'étendue de la population, donc on était obligé de vraiment restreindre, de choisir une cible. Les effets secondaires qu'on peut rencontrer, ça peut aller de l'engourdissement au niveau du site d'injection à une petite fébricule, c'est-à-dire une petite fièvre, ou bien encore des maux de tête. Voilà, donc ça, c'est des signes minimes qu'on peut rencontrer, mais qui sont tout à fait normaux et passagers, en fait. Quel que soit le symptôme, ce qu'il y a lieu de faire, dès qu'on remarque un symptôme, il faut se rapprocher du centre de santé le plus proche de soi. On a rencontré un grand engouement par rapport à cette vaccination, donc le message est bien passé, les gens ont compris l'importance et l'enjeu aussi de cette vaccination.
Dès le sanitaire toujours, les soins médicaux sont désormais gratuits pour la population de Menesoroa dans 3 CSI du département grâce à l'appui d'une ONG internationale. Il s'agit du CSI urbain de Meiné, le CSI de Chéri et celui de Fulatari. Cette prise en charge médicale durera 3 mois à compter du mois de mai. Madame Madou Katiella, présidente du COGES du district sanitaire de Menesoroa, explique au micro de Maman Idrissa.
Cette gratuité de soins concerne le CSI urbain de Menesoroa, le CSI de Chéri et celui de Fulatari. Ils sont au nombre de 3 pour le moment et nous voulons qu'ils soient la vitrine. À partir du 1er mai, quand un patient se présente dans ce CSI, la prise en charge est gratuite en fonction de la maladie dont il souffre. C'est l'ONG ACF qui a fait ce don de médicaments. Et comme c'est gratuit, vous voyez comment les femmes ont pris d'assaut le CSI. Pour l'instant, tout se déroule normalement.
Une audience foraine a été lancée jeudi par la direction régionale de l'état civil de la migration et des réfugiés. Plus de 1000 enfants, majoritairement des élèves de CM2, vont bénéficier des actes de naissance de la commune urbaine d'Agadez. Plus de détails avec Malam Lawel, directeur régional de l'état civil Agadez, au micro de Moussa Maman.
Agadez, c'est une zone migratoire où il y a des mouvements mixtes de toutes parts. Vraiment, nous avons jugé utile, vu le rapport que nous avons sur la table, les différentes données de l'état civil que nous avons au niveau de notre tableau de bord, nous voyons vraiment que le but n'est pas atteint. Il y a beaucoup de points qui nous échappent. Comme vous le savez, notre arsenal juridique est mis dans la Convention des droits de l'enfant, celui de l'UE que l'Angers a ratifié. Il est dit clairement qu'un enfant de la naissance, il a droit à un nom et doit être enregistré. Et pour ne pas laisser notre population sans ces documents précieux qui prouvent leur identité juridique, on a jugé utile vraiment avec les partenaires d'initier ce genre d'activité pour vraiment offrir des actes aux enfants, surtout ceux qui sont en milieu scolaire ou l'être sans savoir à la veille des examens de fin d'année CFPD. C'est pour cela que cette activité a touché 1000 élèves de la commune urbaine d'Agadez qui n'ont pas de pièces d'état civil.
Dans le cadre de l'inauguration du marché de Birningaouré, le projet PNUD offre à la population une occasion de se confectionner une carte d'identité ou un acte de naissance. Cela contribuera à promouvoir l'inclusion sociale et l'accès aux services. Pour plus de précisions, écoutez les explications du responsable de l'état civil de la ville, Zazé Amadou. Il est au micro de Nana Hadiza Hassan.
On est très fiers de cette activité puisque c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu ça à Birni. Il n'y a pas un projet ou un ONG. Depuis 2007, je suis à la mairie. Moi, je n'ai pas vu un projet qui est venu nous faire aussitôt un acte de naissance, aussitôt une carte d'identité en même temps. C'est gratuit, tout est gratuit. Durant les 14 jours, on va faire 2000 actes de naissance. Si possible, dans les 2000 actes de naissance, on peut avoir encore 2000 cartes d'identité. La journée, on a pu avoir 43 actes de naissance, dont 17 femmes et 26 hommes. J'appelle à toute la population de Birningaouré et ses environs de venir massivement pour vraiment que les gens puissent avoir leur pièce d'identité. Puisque c'est une occasion, à jamais. C'est une occasion que tu vas faire même 5 ans, 10 ans, tu ne peux pas avoir ça. Tout est gratuit.
Restons à Dosso où, pour assainir la ville, la commune urbaine de Gaya a créé un service chargé d'octroyer les permis de construction. L'administration déléguée de Gaya, Bachir Moussa, l'administrateur plutôt délégué de Gaya, Bachir Moussa Sala, recommande à tous de se conformer avant d'entamer une construction. Il est au micro de Balkis Sidi.
Avant que le monsieur ou la dame ne commence sa construction, il doit se présenter à la mairie pour nous dire où est-ce qu'il veut construire. Les techniciens vont se prendre sur les lieux pour voir d'abord est-ce que c'est un endroit qu'il faut construire ou pas. Et maintenant, le plan de construction. Il y a des prix que le service technique a élaboré en fonction des constructions. Mais pour le moment, ces prix, nous allons le soumettre au comité qui va aider l'administrateur délégué à faire tous les travaux pour que la commune soit développée. Bientôt, cette opération va commencer. Nous allons souvent faire des visites inopinées dans la ville pour voir est-ce qu'il y a des constructions qui sont en train d'être faites, mais dont les personnes ne sont pas venues se déclarer à la mairie. Les réglementations en vigueur nous ont donné des moyens pour faire des amendes par rapport à ces contrevenants-là. Pour les nouvelles constructions qui doivent venir régulariser leur situation au niveau de la commune urbaine.
Les examens du certificat de fin d'études du premier degré CFEPD auront lieu du 24 au 25 juin prochain sur toute l'étendue du territoire national. Depuis la réinstauration de ces examens pour le passage des élèves du CM2 en classe de 6e, élèves et enseignants sont à pied d'œuvre pour affronter cette épreuve. Comment se fait les préparatifs pour les enfants déplacés? Lawali Mahamoudou, directeur de l'école Medina 1 de Wallam, qui accueille des enfants déplacés, explique au micro de Goumandei Iliasso.
C'est une école qui a beaucoup de déplacés, mais n'empêche, il y a des autochtones. Cette école dispose de 13 classes et 14 enseignants. Depuis la rentrée, le gouvernement a tout mis en œuvre pour une bonne année scolaire. Les partenaires de l'État, qui sont les ONG, ont également apporté leur contribution. Plaise à Dieu, cette année, ce qu'on a l'habitude de faire depuis longtemps, le certificat sera organisé sur l'ensemble du territoire pour les classes de CM2. Les admis à ces examens seront au collège. Ici, à Medina 1, les préparatifs vont bon train. Nous avions attaché nos ceintures, car dès qu'on parle d'examen, ça nécessite un travail. Et dès le début de l'année, c'est pour cette raison qu'en dehors des jours ouvrables, nous avons demandé aux élèves de venir pour qu'on soit prêt le jour des examens pour une bonne réussite. Concernant le taux d'exécution du programme, nous sommes à 97%.
Les épreuves physiques et sportives du BPC, session 2024, communément appelée brevet sportif, quant à elles, ont débuté ce matin à Zender. C'est la ministre de l'Éducation nationale, Dr. Elisabeth Chérif, qui a donné le coup d'envoi au lycée Amadou Kourandaga. Cette année, ils sont plus de 118 000 candidats à affronter ces épreuves sur l'ensemble du territoire national. On écoute la ministre au micro de notre correspondant Ali Keita.
Nous sommes aujourd'hui au niveau des examens d'éducation physique. Tout au long de l'année, nous avons chanté notre envie de souveraineté, notre envie de faire de notre pays une fierté. Alors vous comprendrez que cette ambition ne peut s'accompagner que d'un travail acharné, d'une grande discipline. C'est pour cela que je vous incite à vraiment vous inscrire dans une posture de clarté. N'est-ce pas? Et d'intégrité. On ne peut pas être fier de la fraude, de la tricherie. N'est-ce pas? On ne peut pas imposer le respect du Niger sans avoir le goût du travail. Nous vous souhaitons une bonne chance pour l'EPS, mais aussi pour les examens écrits que vous aurez à passer dans quelques semaines.
Et du sport, dans cette édition, les stades du pays accueillent les différents matchs de la 23e journée de la Super Ligue de football. À l'issue de ces rencontres, l'AS FAN est toujours en tête du classement provisoire avec 46 points. Les champions en titre, l'AS Garde Nationale du Niger, occupent la deuxième place avec 44 points et l'AS Nigelec prend la troisième place avec 43 points. En bas du tableau, on retrouve Akokana Darlit et l'Espoir FC de Zender, tous deux avec 17 points, tandis que le Tagour PC de Dosso ferme le classement avec 16 points. Bienvenue dans la partie magazine. Pour mener leurs activités sur le territoire du Niger, les organisations non gouvernementales, nationales comme internationales, du domaine humanitaire sont tenues de respecter certains principes dont la neutralité, l'humanité, l'indépendance et l'impartialité. Installée à Maradi depuis 2020, l'ONG NRC, Conseil norvégien pour les réfugiés, a fait de ces principes son cheval de bataille pour une réponse adéquate aux besoins des populations vulnérables. Suivez le reportage de Mohamed Maman.
Nous sommes ici à l'école du village Cabra dans le département de Guédaroumji, une des écoles qui accueille les enfants réfugiés. Pour encourager la fréquentation des enfants à l'école, l'ONG NRC leur apporte un paquet d'interventions. Un membre du programme éducation de NRC explique.
Au niveau de l'éducation, donc sur la base de l'impartialité, avant d'intervenir, nous faisons des évaluations des besoins pour voir le besoin réel des écoles que nous soutenons. Et c'est vraiment à partir donc de ces besoins-là que notre intervention est axée. Les jets d'action que nous apportons dans les écoles, il y a les constructions des salles de classe que nous faisons dans les écoles qui accueillent donc les enfants réfugiés pour augmenter la capacité de ces écoles-là. On distribue également les kits scolaires pour vraiment favoriser l'apprentissage des enfants.
L'école de Cabra a un effectif d'environ 300 élèves dont 34% représentent les enfants de réfugiés. Sur la base de l'impartialité, tous les élèves sont traités au même pied d'égalité dans la prise en charge, témoigne le directeur de l'école.
C'est en fonction des besoins de nos élèves qu'elles prennent en charge. Et même pour la distribution, elles nous amènent des kits à nos élèves sans distinction. Les élèves du CI jusqu'à CM2, quand on vient, on les distribue des kits scolaires, les sacs, trousseaux avec des matériels. Donc chaque élève aura son sac avec des cahiers, des bics, des stylos, sans distinction. Parce que les enfants, quand ils viennent ici à l'école, ils sont au même pied d'égalité. Il y a les enfants des réfugiés que nous accueillons dans notre école, on les prennent au même pied d'égalité.
Pour le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC, le respect des principes humanitaires par tous les acteurs est d'une importance capitale.
L'application de ce principe d'impartialité, ça augmente notre acceptation auprès des communautés. Ça nous permet également d'avoir accès vraiment aux personnes qui sont les plus dans le besoin. Par exemple, si les autorités, les groupes armés ou les groupes armés non étatiques n'acceptent pas que les humanitaires accèdent à certaines zones, à certaines populations, les besoins ne seront pas évalués et on ne pourra pas répondre à leurs besoins. Donc par conséquent, l'aide humanitaire est inefficace dans ces cas. C'est pourquoi on doit véritablement respecter ces principes.
Ainsi se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans...